Bonjour Élise Pavé-Gilbert.
Bonjour Francine Thomas.
Dans le préambule de Olympe de Gouges que vous signez avec Florence Lautry, vous écrivez vouloir susciter l'envie d'en savoir davantage sur une femme aujourd'hui célébrée et pourtant encore méconnue, épelue. Et c'est vrai, c'est une autrice très prolixe apparemment, Olympe de Gouges, je l'ai appris grâce à vous, et ses écrits, eux, sont pour la plupart restés dans l'ombre.
Exactement, et puis il est même difficile en fait de les lire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il existe une édition des œuvres complètes d'Olympe de Gouges, donc les éditions Cocagne. On a tous les textes, mais c'est quand même une édition difficile à se procurer, il faut faire un effort pour la commander. Et puis on a bien sûr l'édition d'Olivier Blanc, mais seulement pour les écrits politiques. On a les textes aussi, seulement le théâtre, de l'édition de Gisela Thiebel-Knobel, mais finalement, ce sont quand même des éditions savantes qui ne sont pas si grand public. À part évidemment la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, et puis Zamor et Mirza, donc quand même certaines pièces de théâtre.
Alors, ce qu'on sait aussi assez peu sur Olympe de Gouges, c'est qu'elle est une figure féministe, on la connaît pour cela, mais il y a bien d'autres choses. Elle s'est élevée, par exemple, pour plein d'autres causes, et notamment contre l'esclavage. Elle avait vraiment de nombreux combats, pas que la cause des femmes.
Tout à fait, et même son premier combat, c'est même plutôt la cause sociale, enfin, on dirait sociale aujourd'hui, puisque l'un des premiers textes qu'elle écrit, c'est la lettre au peuple, ou projet d'une caisse patriotique. Donc, elle, véritablement, elle défend une sorte d'impôt patriotique, donc en donnant le tiers de son revenu, et elle exhorte, finalement, elle encourage hein, tout le monde à faire de même. Et puis elle crée aussi des maisons de charité, donc où elle veut recueillir soit les femmes abandonnées, laissées seules avec leurs enfants, les vieillards sans appui, les personnes sans travail, etc. Donc il y a cette portée, on va dire, sociale d'abord. Et pour l'esclavage, ça arrive en fait dans un second temps, au moment aussi où les débats deviennent un peu plus prégnants à l'Assemblée autour de cette question, et au moment aussi où se forge la Société des Amis des Noirs, donc ça c'est 1788, elle gravite autour des noms qui eux-mêmes appartiennent à cette société. Et donc elle écrit L'esclavage des nègres, alors elle le soumet à la Comédie française, ce texte, dès 1785. Ça va être retardé, etc., un peu par mauvaise foi des comédiens de la Comédie française, mais aussi pour des raisons quand même de planning théâtral. Et elle est jouée donc seulement, à son goût évidemment, pour trois représentations, décembre 1789 et début 1790. Et après, elle remanie son texte en 1792. Et là, la question elle-même est devenue beaucoup plus brûlante, beaucoup plus d'actualité. Et c'est en 1794 que sera en effet prononcée la fin de l'esclavage.
Elle a donc comme ça des causes très progressistes. Et puis, dans d'autres combats, elle est plus modérée. Par exemple, elle est assez attachée, semble-t-il, à la figure du roi. Donc, elle avait un positionnement assez difficile à cerner pour ses contemporains, peut-être.
En fait, comme un peu tout le monde aussi, il faut l'avouer, à cette époque, c'était quand même une époque trouble. Donc, les gens changent aussi d'avis en fonction des circonstances. Alors, c'est vrai qu'au départ, elle est vraiment monarchiste constitutionnelle. Donc, elle souhaite évidemment conserver le plus possible la monarchie. Après Varenne, quand même, elle-même, et même au moment donc de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, donc on est en 14 septembre 1791, bien sûr, elle adresse cette lettre à la reine, mais on sent que finalement, elle a encore du respect pour la fonction de reine, mais elle n'a plus du tout de respect pour Marie-Antoinette. Pareil, elle a encore du respect pour la fonction du roi, mais plus guère pour Louis Capet. Donc elle écrit évidemment cette déclaration en la mettant sous la tutelle de la reine. Elle écrit aussi un texte qui s'appelle Olympe de Gouges, défenseur officieux de Louis Capet. Donc au départ, oui, elle se prononce plutôt pour l'exil du roi, mais quand même à la fin, et ça on le dit moins, elle change d'avis, c'est vrai, et elle déclare aussi qu'elle veut la mort, enfin qu'elle veut, si elle pouvait voter, hein, mais elle ne vote pas à l'Assemblée, mais si elle pouvait voter, elle voterait aussi la mort du roi. Et là on est 1792-1793.
Alors Olympe de Gouges a été guillotinée en 1793 à l'issue d'un procès assez expéditif, semble-t-il. Enfant de la patrie, vous vengerez ma mort, a-t-elle crié sur l'échafaud, ce qui est digne d'un personnage de fiction. Et c'est ce qu'elle devient dans un téléfilm diffusé cette semaine sur France Télévisions. Et c'est un peu le film qui est à l'origine de votre livre, si j'ai bien compris.
Exactement. Alors juste pour l'anecdote quand même, enfant de la patrie, vous vengerez ma mort. Ces phrases, c'est toujours un peu des phrases apocryphes. On n'est évidemment pas sûr de leur réalité. Hein. Mais donc, tout à fait, la légende aussi produit les fictions, et c'est tant mieux. Et donc, effectivement, nous avons eu comme contrainte, hein, mais c'était une contrainte agréable, hein, dans la contrainte, on peut exercer une liberté. Nous avions eu pour contrainte avec Florence Florence Lautry. En fait, au départ, c'est vraiment grâce à Marie Leroy, donc, qui est éditrice chez Flammarion, qui voulait faire donc, ce livre en écho, en quelque sorte, au film. Et donc, elle nous a proposé d'écrire, j'ignorais même le mot, ce qui s'appelle une novélisation, donc transformer une fiction, en l'occurrence cinématographique, en une sorte de roman historique ou de fiction historique. Donc, nous avons suivi le scénario, finalement en repérant des découpages au sein du scénario qui pouvaient être les chapitres de notre livre. Et ensuite, nous avons vu quand même le film et nous avons pu échanger aussi tout le temps de A à Z avec Marie Leroy, mais aussi avec Mathieu Busson et Julie Gayet pour uniformiser certaines choses. Et même à ma grande surprise, ils ont plutôt souhaité que nous ne collions pas au film. C'est-à-dire pour eux, j'ai l'impression que c'était une opportunité aussi de... Enfin, le livre pouvait combler les lacunes, entre guillemets. C'est-à-dire que, évidemment,
ils le disent à la fin, en postface.
Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'ils ont, pour des contraintes parfois très matérielles, budgétaires ou même, je ne sais pas, des choses de temps, des choses très, très concrètes, ils ont dû renoncer à certaines choses ou à certaines scènes ou simplifier un peu, mais pour les besoins de la démonstration du film, c'est totalement logique. Et donc, ils étaient contents, d'une certaine façon, qu'on réintroduise un peu la complexité, qu'on réintroduise aussi beaucoup, et ça nous tenait à cœur, la voix d'Olympe, la voix de ses textes. Et c'est sûr que c'est plus facile de faire des pensées monologues intérieures avec les moments où elle crée sa prose quand on est à l'écrit, que on peut s'en servir de temps en temps dans un film, mais on ne peut pas faire des monologues intérieurs sans cesse.
Et donc le film et le livre se complètent très bien. Malgré tout, vous êtes universitaire, il y a quand même un travail de simplification, même dans le livre, par rapport à, j'imagine, tout ce que vous auriez pu dire sur Olympe de Gouges, parce que c'est vraiment une biographie grand public qu'on lit d'un trait et très facilement. Est-ce que c'est un travail pour vous qui a été agréable?
Complètement, parce que justement, ça m'a changé de mes notes de bas de page érudites dans d'autres cadres, d'autres textes, donc c'était un travail très agréable. Il y a eu aussi, évidemment, la relecture professionnelle de l'éditrice, Marie Leroy, qui nous a apporté un peu de légèreté aussi. Mais c'était dur aussi, très agréable, mais difficile de trouver justement le juste fil entre quand même des circonstances historiques, donc un savoir historique qu'on devait amener, qu'on attendait de nous, et quelquefois des échappées lyriques, si j'ose dire, ou en tout cas un peu de roman, quoi. Donc c'était un fil assez ténu.
Elle est donc au cœur de l'actualité de cette semaine, Olympe de Gouges. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne d'elle principalement ?
Le fait qu'elle voulait être dramaturge, écrivaine, que finalement l'image de femme politique, de femme publique, c'est réel, c'est ce qu'elle voulait aussi, mais en premier, ce qu'elle voulait, c'est écrire. Je suis femme et auteure, j'en ai toute l'activité, donc c'est cette image-là. Et puis, ce que je voudrais aussi, c'est qu'on cite d'autres textes que toujours les mêmes, donc toujours La Déclaration ou toujours Zamor et Mirza ou Le Renaufrage, qu'on se plonge vraiment dans ces textes parce qu'il y a un conte philosophique, il y a énormément de pièces de théâtre, et puis ces écrits politiques, surtout ceux de 1792-1793, donc finalement après la Déclaration des droits de la femme, sont, je trouve, les plus littérairement, les plus stylistiquement riches, avec le plus de métaphores. Elle rejoint vraiment un style d'époque à ce moment-là qui est très comparable à des écrits d'hommes et des écrits d'autres femmes.
Élise Pavé-Guilbert, vous signez avec Florence Lautry, Olympe de Gouges, une femme dans la Révolution chez Flammarion. C'est une parfaite façon de mieux connaître cette écrivaine combattante, très avant-gardiste, en complément d'un téléfilm diffusé sur France Télévisions et disponible dans la foulée en replay. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Francine Thomas.